Leçon 6. Nous sommes saints et justes. Chapitre 1. Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est séparer du mal, un être ou une chose, pour le rendre disponible à Dieu. La sanctification est un processus par lequel Dieu transforme la vie et la conduite du croyant à l'image de Christ. Lorsque quelqu'un est justifié, Dieu le déclare juste, c'est un acte que Dieu opère pour nous. Mais la sanctification est une action que Dieu opère en nous. La justification nous positionne dans une relation correcte avec Dieu, mais la sanctification manifeste le fruit de cette relation. Le fruit se manifeste par une séparation du mal et une consécration à Dieu. Le verbe « sanctifier » dans la langue originale de la Bible signifie « couper » ou « séparer ». Il représente donc la manière dont Dieu nous sépare du monde et comment il sépare le monde de nous. La sanctification inclut 1. La séparation du monde, du mal et de toute impureté. 2 Chroniques chapitre 29, verset 5. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévite. Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du. D'autres passages indiquent que la sanctification exige la séparation de l'impureté. 2 Chroniques chapitre 35, verset 6, Exode chapitre 19, verset 10 et 15. 1 Chroniques chapitre 15, verset 12, Josué chapitre 3, verset 5, Job chapitre 1, verset 5. Lisez avec beaucoup d'attention chaque verset et vous verrez que tous les versets parlent de purification personnelle. 2. Consécration à Dieu. Une personne, un endroit ou une chose séparée ou dédiée exclusivement au service de Dieu est consacrée. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que des maisons étaient sanctifiées au Seigneur, Lévitique chapitre 27, verset 14. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. De même Salomon, après avoir terminé le temple, l'a consacré à Dieu. Certaines personnes aussi ont été consacrées à Dieu. Par exemple, Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. 3. La vie sainte. Le résultat de la sanctification, de la purification du péché et de la consécration à Dieu est une vie sainte. La nouvelle nature de celui qui a été recréé en Christ désire seulement ce qui est pur, juste et décontaminé. Au fur et à mesure que Dieu sanctifie le croyant et que celui-ci se sanctifie lui-même, la nature morale de Dieu, la sainteté, se forme dans sa vie. Au travers du processus de sanctification, Dieu prépare le croyant pour son règne, Éphésiens chapitre, verset 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, à tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ, il leur est demandé une vie sainte. Toutes nos paroles, nos pensées et nos actions doivent être soumises au contrôle de l'Esprit de Dieu. Vivre une vie sainte est un commandement des Écritures. Lévitique chapitre 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. En lisant ces versets, nous comprenons que Dieu désire que son peuple se sépare du mal et de l'impureté, et qu'il soit reconnu pour sa conduite et pour son désir de servir seulement Dieu. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Chapitre 2. Quand se donne la sanctification ? Personne ne peut avoir une vie victorieuse en Christ sans savoir qu'il est en lui. Nous savons que Dieu a fait le monde parfait. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et lui a donné ses instructions. Mais l'homme a fait un choix erroné. Le fait est qu'une personne, qui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus est un pécheur, c'est une personne dont la nature est mauvaise. Il y a des personnes qui disent et pensent qu'elles sont très bonnes, apôtres, je n'ai jamais fait ni désiré faire de mal à personne. Mais, à tout le temps, ils parlent mal des autres et font des bêtises sans fin. Il suffit qu'une personne mente une fois, ne prête pas attention à Dieu, qu'elle ne lui rende pas hommage et n'honore pas ce qu'il lui demande de faire, pour pécher, car elle transgresse la loi de Dieu. Nous devons comprendre que pour Dieu personne n'est juste sur terre. Nous avons tout transgressé et nous l'avons rendu triste. Dieu s'irrite de telle façon qu'il ne s'adresse pas à ceux qui ne cessent de l'attrister. Mais sa patience est grande et sa grâce permet à ce monde de continuer à exister. Celui qui persiste à penser qu'il est une grande et importante personne ne trompe que lui-même. Il n'arrive même pas à tromper les autres. Si quelqu'un pense de cette manière, il peut dès à présent savoir qu'il ne nous trompe pas, et encore moins Dieu. Dans la vie d'un chrétien, il y a deux types de sanctification, la sanctification instantanée, la sanctification progressive. A. La sanctification instantanée. Elle est donnée à l'instant où une personne reçoit Jésus comme sauveur, et elle consiste à ce que Jésus pardonne et efface tous ses péchés, depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour où elle s'est donnée à lui. Qui peut se considérer saint ? Tout individu qui a reçu Jésus comme sauveur et fait une nouvelle création, il est devenu enfant de Dieu, il a été sanctifié, lavé, libéré de ses péchés, par le Seigneur Jésus-Christ. Être saint n'est pas ne jamais se tromper dans la vie ou être parfait. Et c'est pour cette raison que vous êtes appelé saint. Voyons ce qu'a dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ceci concerne tous les croyants qui vivent dans toutes les parties du monde et qui ont reçu Jésus-Christ. Nous voyons, par la Bible, que tous les frères en Christ, dans toutes les parties du monde, sont saints. Nous ne sommes pas saints grâce à notre propre mérite. Nous ne pouvons pas acheter la sainteté par nos œuvres. Nous sommes saints parce que Jésus a versé son sang pour nous sanctifier de nos péchés et nous réconcilier avec Dieu, le Père. Ce n'est pas moi qui me rends saint, ce n'est pas vous qui vous faites saint et aucun homme ne peut rendre un autre saint. Seul Dieu peut le faire. C'est Dieu qui nous rend saints grâce au sacrifice de Jésus et non grâce à nos œuvres. Lorsque nous naissons, nous avons une mauvaise nature à cause d'Adam et Ève et en dehors de ce fait, nous péchons aussi. Il n'y a personne qui ne pèche pas. Si Jésus n'était pas mort pour nous laver et nous purifier de nos péchés, nous n'aurions aucune chance d'entrer dans le royaume de Dieu. Romains chapitre 3, versets 9 et 10. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, avant d'avoir donné notre vie à Jésus, nous étions pécheurs, et nous étions condamnés à la perdition éternelle. Certaines personnes ne comprennent pas ce fait, et pensent qu'un jour Dieu les sauvera, parce qu'elles sont de bonnes personnes, qu'elles paient leurs dettes, et qu'elles désirent ne faire de mal à personne, etc. Mais ceci est une grande tromperie. Aux yeux de Dieu, il est aussi grave de tuer, de voler, de commettre l'adultère, que de mentir, de critiquer ou de faire du mal aux autres. Nous étions étrangers et ennemis de Dieu à cause de nos mauvaises actions. Mais Jésus a versé son sang sur la croix pour effacer nos péchés et pour que nous puissions nous présenter à Dieu le Père, saint, irréprochable et non coupable. En recevant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Jésus nous a lavés de tous les péchés et nous présente devant Dieu, saint, irréprochable et non coupable. Quand nous étions pécheurs, nous étions sous le pouvoir du diable. Nous étions des esclaves du diable que nous le croyons ou non. Lorsque nous naissons de nouveau en recevant Jésus, il nous libère des griffes du diable, de l'esclavage de Satan, et nous transporte dans le royaume de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. B. La sanctification progressive. Cette sanctification est de la responsabilité du croyant né de nouveau. Elle consiste à confesser ses péchés à Dieu à partir du jour où il a reçu Jésus, ainsi qu'à commencer à mener une vie selon un modèle agréable à Dieu. Le chemin de la sainteté est une aventure commune entre Dieu et le chrétien. Personne ne peut atteindre un certain degré de sainteté si Dieu ne travaille pas dans sa vie. Également, bien sûr, sans effort personnel, personne ne pourra atteindre la sainteté. Dieu nous a donné la capacité de marcher dans la sainteté. Néanmoins, il nous a donné la responsabilité de le faire, il ne le fera pas pour nous. Nous, les chrétiens, nous aimons beaucoup parler des provisions de Dieu, de la manière dont Christ a vaincu le péché sur la croix et nous a donné son Saint-Esprit pour vaincre ce péché. Mais, en général, nous ne sommes pas tellement prêts à parler de notre propre responsabilité pour vivre dans la sainteté. Nous nous demandons tous, que dois-je faire et que puis-je espérer de Dieu? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur cette question pertinente? Quelle est ma responsabilité dans la recherche de cette sainteté? Il existe un moyen de l'atteindre qui requiert de la diligence et qui dure toute la vie. Maintenant je suis sauvé, je suis une nouvelle créature, un enfant de Dieu, saint et juste, libéré de mes péchés antérieurs. Mais, est-ce que je ne pécherai plus? Malheureusement, il n'en va pas ainsi. Après avoir reçu Jésus, et malgré notre volonté et notre détermination à vouloir faire seulement le bien, quelquefois nous péchons, nous faisons ce que nous ne devrions pas faire. Maintenant posez-vous la question, avons-nous une solution? Heureusement oui, Jésus a pris des dispositions pour les péchés postérieurs à notre conversion. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. La sanctification commence le jour où nous naissons de nouveau, mais nous devons la maintenir avec l'aide du Saint-Esprit. La sanctification consiste à vivre selon un modèle de vie agréable à Dieu, à devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. La sanctification progressive produit des fruits, l'amour agape, fruit de l'esprit renouvelé, 1 Corinthiens chapitre 13, modération, joie, paix, longévité, longanimité, qualité de supporter l'adversité, les injustices et les persécutions, sans murmurer et en attendant patiemment les améliorations de la situation, bénignité, bonté, fidélité. Chapitre 3. Comment sommes-nous sanctifiés? A. Aspect divin. Il existe trois moyens établis divinement pour recevoir la sainteté, à savoir, le sang de Christ, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. 1. Le sang de Christ. Hébreux chapitre 13, verset 12, chapitre 10, verset 10 et 14, 1 Jean chapitre 1, verset 7. Dans ce cas, le pécheur est transformé en adorateur saint. En vertu du sacrifice suprême de Christ, le croyant est transformé et éternellement mis à part pour Dieu, sa conscience est purifiée, et lui-même est transformé en adorateur, uni dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, Hébreux chapitre 2, verset 11. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Voyez Esaïe recevant la vision de Dieu. Il fut accablé en discernant son manque de sainteté. Il ne pouvait pas entendre le message divin tant que la braise de l'autel n'avait pas purifié ses lèvres. La conscience du péché obscurcit la communion avec Dieu. La confession et la foi dans le sacrifice de Christ enlèvent cette barrière. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 2. Le Saint-Esprit, sanctification intérieure. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12, 1 Pierre chapitre 1, verset 1 et 2, Romains chapitre 15, verset 16. Dans ces passages, la sanctification par le Saint-Esprit est présentée comme le début de l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes et qui les conduit à l'entière connaissance de la justification, par la foi, dans le sang versé de Christ. Le chapitre 10 de Actes illustre l'œuvre du Saint-Esprit. Les premières années de l'Église primitive ont été une barrière à l'évangélisation des païens. Dieu a dû, en vision, expliquer à Pierre que ce que le Seigneur purifie, il ne devait pas le traiter comme commun ou immonde. Il est important de dire que Dieu a mis en place des dispositifs pour la sanctification des païens pour qu'ils deviennent son peuple. 3. La parole de Dieu, sanctification extérieure et pratique. Jean chapitre 17, verset 17, Éphésiens chapitre 5, verset 26, Jean chapitre 15, verset 3, Psaume chapitre 119, verset 9, Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. Les chrétiens sont dépeints comme régénérés par la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu réveille les hommes de la folie et de la méchanceté de leur vie. Quand nous donnons de l'importance à la parole, nous nous repentons et croyons en Christ, nous sommes purifiés par la parole qui nous a été exprimée. Voilà le début de la purification qui doit continuer pour toute notre vie. Dans l'acte de consécration au ministère, le prêtre israélite prenait un bain sacerdotal complet, un bain qui ne se répétait jamais, c'était une action effectuée une seule fois pour toujours. Tous les jours, néanmoins, les prêtres étaient obligés de se laver les mains et les pieds. De la même manière, celui qui a été régénéré a été lavé, Tite chapitre 3, verset 5, mais il a besoin d'être séparé quotidiennement des impuretés et des imperfections, comme cela est exposé dans la parole de Dieu, qui sert de miroir à l'âme. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Prenez note du sens de lavage ou ablution des mains, les actes doivent être droits. Ablution des pieds, se garder de l'immondice qui s'attache facilement aux pieds du pèlerin, qui marche par les routes de ce monde. B. La part du croyant. 1. Foi dans l'expiation. Le salut est obtenu par la grâce. Si vous expliquez au peuple juif qu'il a seulement besoin de croire en Jésus et qu'il n'y a rien d'autre à faire quant au salut, car c'est une grâce de Dieu, ils vous répondront certainement que c'est une hérésie, et en même temps ils négligeraient leur manière de vivre. Ils estimeraient que peu importe leurs actes, à partir du moment qu'il est la foi. Cette doctrine de foi encourage le péché. Si la justification est par la grâce et rien de plus, sans les œuvres, pourquoi alors doit-on briser avec le péché? Pourquoi ne pas continuer à pécher, pour que la grâce abonde encore plus? Les ennemis de Paul l'accusaient de prêcher une telle doctrine. Paul, dirigé par le Saint-Esprit, affirme en Romains chapitre 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. La mort annule toutes les obligations et rompt tous les filets. Par son union avec le Christ, le chrétien meurt à sa vie ancienne et brise les chaînes du péché. 2. Coopérer avec l'Esprit. Grandir dans la sainteté passe par la libération consciente du croyant du pouvoir du péché. Dans en Romains chapitre 6, on voit la victoire sur le pouvoir du péché, par la foi. En Romains chapitre 8, présente le nouvel allié de l'homme dans la bataille contre le péché, le Saint-Esprit. Paul démontre l'importance de la loi pour sauver et sanctifier, non parce que la loi est bonne, mais à cause de l'inclinaison pécheresse de la nature humaine, connue comme la chair. Dans le chapitre 8 de Romains, le thème dominant c'est la libération de la nature pécheresse par le pouvoir du Saint-Esprit. 3. Renouveler la pensée. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Philippiens chapitre 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Ainsi, en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous lisons que nous devons amener toute pensée captive. Nous renversons toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous accordons à la parole de Dieu la place due dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous avons la pensée de Christ. Les transformations spirituelles et physiques viennent par le renouvellement de la pensée. Le corps est le laboratoire des cinq sens. Il ne faut pas s'étonner qu'il soit présenté comme sacrifice. Paul ajoutait : Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Quand la pensée est renouvelée, elle perçoit la valeur spirituelle de la confession exacte. C'est les instruments de la sanctification. 1. La Bible. Le chrétien doit lire la Bible quotidiennement. Elle est un miroir pour le chrétien. Jacques chapitre 1, verset 23. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. En lisant la Bible, le chrétien contemple sa propre condition spirituelle. La Bible apporte la lumière à toutes vos imperfections, vos défauts et vos péchés. Quand nous obéissons à la Bible, nous sommes purifiés. Psaume chapitre 119, versets 9 et 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. 2. La correction. Souvent, Dieu punit ou corrige son serviteur à cause du péché. Cette correction est destinée à le stimuler à ne plus désirer une vie de péché. Ainsi, la correction devient un instrument pour la sanctification du croyant. En recevant la correction, nous devons immédiatement désirer la purification et chercher à avancer dans la connaissance de la sanctification. Cette connaissance peut être atteinte par la foi, après avoir confessé le péché. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Hébreux chapitre 12, verset 6 à 8. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. 3. Les épreuves. Dieu se sert des épreuves pour nous stimuler à la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La correction et l'épreuve ont le même but, nous séparer du mal et nous emmener plus près de Dieu. Psaume chapitre 119, versets 67 et 71. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Le projet de Dieu dans la sanctification du croyant est une sainteté de vie en accord avec la stature de Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 12 et 13. Pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous soyons à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ceci est la norme divine pour chacun de ses enfants. À la seconde venue de Jésus, la sanctification du croyant sera complète, le pouvoir du péché brisé pour toujours. Alors, nous serons complètement saints et nous serons prêts à entrer dans la présence de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Chapitre 4. Signification de la justification. Les trois premières leçons de ce cours complémentaire, repentance des œuvres mortes, qu'est-ce que la foi en Dieu, et la nouvelle naissance, traité de la responsabilité de l'homme pour atteindre le salut, mais la justification est un acte divin par lequel l'homme entre dans une nouvelle relation avec Dieu. Actes chapitre 13, verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Romains chapitre 4, verset 2 à 8. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dans ces passages bibliques, nous voyons clairement que justifier ne signifie pas se faire juste, mais plutôt se présenter comme juste, ou se déclarer juste, au sens légal. La justification ne traite pas directement du caractère ou de la conduite de l'homme. Nous devons comprendre que cette justice est principalement en relation avec Dieu, mais il est évident qu'elle s'exprimera dans les relations avec les autres. Un pécheur qui établit des relations concrètes avec Dieu va produire de la justice dans sa conduite quotidienne. La personne véritablement justifiée devant Dieu ne cherchera jamais à exhiber sa propre justice ou sa propre droiture. Paul a affirmé qu'il désirait d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens chapitre 3, verset 9. En Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parlant à un autre pharisien, Jésus dit en Luc chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Personne ne peut se justifier lui-même devant Dieu, mais seulement devant les hommes, parce qu'en Romains chapitre 8, verset 33 dit « C'est Dieu qui justifie. » Chapitre 5. Que signifie l'imputation ? Jacques chapitre 2, verset 23. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour mieux comprendre la signification du mot « imputé », nous allons lire dans le livre de Paul à Philémon. Onésime, l'esclave de Philémon, avait fui avec des biens appartenant à son maître. Il fuit à Rome, où il rencontre l'apôtre Paul, ami intime de Philémon. Paul amène Onésime à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et lui ordonne de retourner vers son employeur, Philémon, avec le message suivant, Philémon chapitre 1, versets 17 et 18. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Voilà ce qu'est l'imputation, et c'est précisément ce que Christ a fait pour nous. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.